La voix des peintres ne s'entend pas. Elle se lit à travers leurs œuvres. Et c'est à un rôle d'interprète qu'est voué celui ou celle qui souhaite les entendre attentivement. Les artistes elles-mêmes ont semé beaucoup de petits cailloux pour nous aider à trouver le chemin, de tableau en tableau. La peinture au féminin. Denise Brahimi. Édition Jean-Paul Rocher. Bonjour et bienvenue sur Art au féminin. Je suis Algia, la fondatrice de cette chaîne de podcast, et je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouveau épisode. Comme dit lors des deux premiers épisodes de cette nouvelle saison, le paysage foisonnant de l'impressionnisme résonne souvent à travers les noms de Monet, Renoir ou Degas, pour ne citer qu'eux. En effet, lors de mes recherches, j'ai constaté que les récits traditionnels se concentrent fréquemment sur les figures masculines qui ont laissé leur empreinte sur l'impressionnisme. Les femmes impressionnistes, quant à elles, sont souvent occultées, reléguées à l'ombre de leurs homologues masculins. On en cite peut-être une ou deux, comme Berthe Morisot et Marie Cassat. Cependant, en creusant un peu plus, nous découvrons qu'elles sont bien plus nombreuses, et c'est précisément ces artistes dont on parle le moins que je souhaite mettre en avant au fil des épisodes de cette saison. Vous le savez certainement, si vous suivez le compte Instagram Art au féminin, j'ai décidé lors des futurs épisodes de partager sur la vie et l'art de Eva Gonzalez, Marie Cassat et Marie Bashkirtseff. Lors du précédent épisode, j'ai partagé avec vous sur la contribution à l'histoire de l'art et l'histoire de l'impressionnisme d'Eva Gonzalez. Souvent associée à Édouard Manet, son mentor, Eva Gonzalez déploie dans son œuvre une fusion subtile entre la tradition académique et l'audace de l'avant-garde, arrivant ainsi à capturer la vie quotidienne et ses relations humaines dans une période charnière de l'histoire de l'art. Je vous invite bien sûr à écouter l'épisode 3, en lien avec la saison impressionniste, sous le nom Eva Gonzalez, lumière sur une pionnière impressionniste, sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi aller plus loin en lui laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et le partager autour de vous. Ça m'aide beaucoup. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de la vie et l'art de Marie Cassat. Née en 1844, dans une Amérique en pleine mutation, Marie Cassat a bravement navigué dans un monde artistique dominé par les hommes pour devenir l'une des rares femmes à s'imposer dans le monde de la peinture. Son voyage l'a menée des rives de sa Pennsylvanie natale au salon parisien animé, où elle a été profondément influencée par les maîtres impressionnistes français et a trouvé sa voie artistique. Alors à travers cet épisode, nous explorerons les multiples facettes de la vie et de l'œuvre de Marie Cassat, des premières étapes de sa formation artistique, au sommet de sa carrière, en passant par les défis qu'elle a dû affronter en tant que femme artiste, à une époque de changement tumultueux. Il sera également question d'évoquer ses peintures les plus célèbres et ainsi plonger dans les détails de son style et de son approche de l'art. Alors, bonne écoute. C'est à Pittsburgh, en Pennsylvanie, dans un environnement familial aisé, empreint de créativité et de culture, que vient au monde, le 22 mai 1844, Marie Cassat. Quatrième enfant de Robert Simpson Cassat et de Catherine Kelso Johnson. La famille voyage régulièrement en Europe, avant de s'installer à Paris en 1851, puis en Allemagne de 1853 à 1855. Il s'agit d'y soigner l'un de leurs enfants, Robbie. Marie Cassa passe ainsi une partie de son enfance entre Paris et l'Allemagne. Elle y apprend les langues en plus de visiter les musées et les galeries d'art. En 1855, la famille retourna en Pennsylvanie où Marie commença à se consacrer à la peinture. Elle prit ses premières mesures officielles dans le monde de l'art en s'inscrivant à l'Académie des Beaux-Arts de Pennsylvanie, la Pennsylvania Academy of Fine Arts, où elle passa 4 années de 1860 à 1864. Durant cette période, elle perfectionna son art, affinant ses techniques, améliorant son coup de pinceau et approfondissant sa compréhension des principes artistiques fondamentaux. Toutefois, Marie ressentait un profond désir d'explorer le vaste monde au-delà des murs familiers de l'académie et des limites de sa ville natale. À l'âge de 16 ans, animée par une insatiable soif de connaissances artistiques, elle entreprit de convaincre ses parents de lui permettre de poursuivre son éducation en Europe. Ce continent, véritable épicentre de l'art et de la culture, allait devenir une source d'inspiration inestimable pour cet artiste en quête de son identité artistique. Ainsi, Marie Cassa revient en France à la fin de la guerre de Sécession en 1866. Paris devient alors son foyer pendant plusieurs années. Elle se perfectionne dans la peinture de genre en étudiant auprès de divers maîtres tels que Jean-Léon Gérôme, connu pour son style académique, ainsi que Charles Chaplin, spécialiste du portrait. Elle bénéficie également des enseignements de Paul Constant Soyer, Édouard Frère et Thomas Couture. Cette immersion dans un environnement artistique diversifié lui permet d'explorer de nouvelles perspectives et de développer sa pratique artistique en expérimentant différentes techniques. Elle passe du temps au Louvre, où elle s'exerce à copier certaines œuvres, et rencontre des artistes ainsi que des personnalités éminentes de la scène artistique de l'époque. En 1868, elle fait ses débuts au Salon en présentant la joueuse de mandoline sous le pseudonyme de Mary Stevenson, en hommage à sa grand-mère. La fréquentation du salon lui permet de découvrir les travaux de Manet et de Courbet, ce qui éveille en elle une étincelle d'intérêt. Elle y découvre également les œuvres des impressionnistes émergents. Peut-être y était-elle déjà initiée. Cet art la captive et devient une source d'inspiration majeure pour sa propre exploration artistique. Ainsi, elle commence à absorber les innovations de ses pairs tout en développant son propre style distinctif, nourri à la fois par les maîtres anciens et les innovateurs modernes. 2 ans plus tard, elle rentre aux États-Unis en raison de la guerre. En 1871, elle revient en Europe, mais cette fois-ci, elle se rend en Italie. L'évêque de Pittsburgh lui demande de copier une fresque du Corrège à Parme, la Madone de Saint-Jérôme. Après cette mission, elle voyage en Espagne pour explorer Madrid et Séville. Cependant, c'est finalement Paris qu'elle choisit de rejoindre en 1874, l'année de la toute première exposition impressionniste. Après son installation à Paris, Marie Cassa fut immédiatement attirée par les idées révolutionnaires et les techniques novatrices des impressionnistes. Elle fut particulièrement influencée par leur approche audacieuse de la couleur, de la lumière et de la représentation de la vie quotidienne. Inspirée par leur vision artistique, Marie décida de rejoindre les rangs des impressionnistes, trouvant en eux une communauté artistique partageant sa passion pour l'expérimentation et la liberté artistique. En 1877, lorsque le salon refusa l'une de ses toiles, Edgar Degas, qui connaissait déjà le travail de Marie Cassa, lui proposa de rejoindre le groupe impressionniste et d'exposer à la 4e exposition des peintres impressionnistes en 1879. Elle participe ainsi à 4 des expositions impressionnistes. En 1879 donc, puis 1880, 81 et enfin 86. Après avoir initialement refusé de rejoindre le groupe quelques années auparavant, Marie Cassa accepta cette proposition et exposa des œuvres telles que « Petite fille dans un fauteuil bleu »,« Lydia dans une loge portant un collier de perles » et « La tasse de thé ». En parallèle, elle fait face à de nombreuses critiques, comme celle d'un journaliste du New York Times en 1879. J'ai de la peine pour Marie Cassa. Mais pourquoi s'est-elle à ce point égarée ? Qu'importe. L'une de ses toiles, Femme au collier de perles, fut vendue à cette occasion à un collectionneur français, Alexis Rouard. Sa participation à l'exposition de 1879 lui permit également de tisser des liens plus étroits avec d'autres artistes impressionnistes, notamment Pissarro et Berthe Morisot. Cependant, c'est avec Edgar Degas que Marie Cassa développa une relation particulièrement étroite. Leur amitié était fondée sur un profond respect mutuel et une admiration réciproque pour leurs talents artistiques respectifs. Degas fut immédiatement séduit par le style frais et spontané de Marie, tandis qu'elle était fascinée par son approche innovante de la composition et du mouvement. Leur collaboration artistique fut fructueuse, avec des échanges d'idées et d'influences qui enrichirent le travail des deux artistes. Degas joua un rôle crucial dans l'intégration de Marie Cassa dans le cercle des impressionnistes, lui offrant soutien et encouragement alors qu'elle cherchait à faire reconnaître son travail au sein du mouvement. À partir de 1880, Marie Cassa trouva son thème de prédilection, celui des maternités. Elle devint rapidement une figure majeure de l'impressionnisme, avec son style caractéristique et son exploration de thèmes féminins et familiaux, marquant ainsi de manière significative l'histoire de l'art impressionniste. Cassa écrivit au sujet des impressionnistes « En tant que co-initiatrice de l'exposition des indépendants, je dois suivre les principes que nous avions. Pas de jury, pas de médaille, pas de distinction. Notre première exposition fut organisée en 1879. C'était une protestation contre les manifestations officielles et non une association d'artistes d'un même courant stylistique. Depuis, nous sommes appelés les impressionnistes. Cette désignation peut s'appliquer à Monet, mais n'a pas de sens en ce qui concerne Degas. La liberté est le bien le plus grand en ce monde, et se libérer de la tyrannie d'un jury est un sujet pour lequel il vaut la peine de lutter. » Source: Impressionnisme, aux éditions Tachen. D'ailleurs, Marie Cassa joue un rôle crucial en tant que passeur culturel, encourageant les amateurs américains, notamment le couple Avey Meyer, à acquérir des œuvres artistiques impressionnistes. Alors que le mouvement impressionniste peinait à obtenir une reconnaissance en France malgré les efforts du marchand d'art Paul Durand-Ruel, Cassa intervient en apportant son soutien. En 1883, lorsque Durand-Ruel entreprend d'ouvrir une salle de vente aux États-Unis pour y vendre des œuvres impressionnistes, Cassa lui offre son assistance précieuse. Par ses encouragements et son engagement, elle contribue à promouvoir l'art impressionniste aux États-Unis, jouant ainsi un rôle essentiel dans la diffusion et la reconnaissance de ce mouvement artistique novateur. Au-delà de son thème de prédilection, Marie Cassa se donne les moyens en procédant à des recherches assez variées. Elle pratique la détrempe, la peinture métallique, les techniques mixtes, le pastel et l'eau-forte. Sans oublier son goût pour les estampes japonaises. À ce sujet, Denise Brahimi, dans La peinture au féminin, aux éditions Jean-Paul Rocher, écrit « L'apport de l'art japonais et des techniques qu'elle en a personnellement tirées a consolidé les croyances de Marikasa sur le but de l'art et sur les possibilités de lui conférer la plus grande efficacité. Même si le japonisme au sens strict ne domine qu'un moment de sa longue carrière, il apparaît à la fois comme l'aboutissement d'un avant et comme l'accélération du processus en cours vers un après. » Certaines œuvres témoignent du génie artistique de Marikasa. Il est impossible de passer en revue toutes ses créations à travers cet épisode. Cependant, je souhaite me concentrer ici sur ses œuvres les plus emblématiques, celles qui ont marqué son parcours et qui représentent au mieux son talent, selon moi. Alors, il y a le bain. Dans son œuvre, Le Bain, Marikasa capture avec une sensibilité l'intimité profonde et tendre d'un moment maternel. Réalisé en 1891, cette aquatinte et pointe sèche sur papier révèle l'influence marquante de l'art japonais sur le travail de l'artiste américaine. Inspirée par une exposition d'estampes japonaises à Paris en 1890, Kasa a entrepris une série d'aquatintes explorant le thème intemporel des mères et des enfants. Le bain, ou The Bath, est la première de cette série. C'est une scène empreinte de douceur et de simplicité. Dans cette représentation délicate, nous observons une mère, légèrement penchée, qui baigne tendrement son enfant. Les figures traitées avec une précision délibérée, mais sans détails superflus, évoquent une harmonie tranquille et intime. Kasa adopte une esthétique caractéristique de l'art japonais en donnant aux figures une dimension plate, éliminant presque complètement les ombrages et les variations de ton traditionnelles. L'absence d'éléments distrayants dans le cadre met en lumière l'essence de la relation mère-enfant capturée par Kasa. Les contours simples et les lignes pures soulignent la simplicité et la beauté de ce moment fugace, renforçant ainsi l'impression de calme et de sérénité qui émane de l'œuvre. Et puis, il y a la loge. La loge de Marikasa, une peinture datant de 1878, offre une fenêtre fascinante sur la société parisienne de la fin du 19e siècle. Exposée au Museum of Fine Arts à Boston, cette œuvre témoigne du talent de Kasa pour saisir les subtilités de la vie quotidienne et des interactions humaines. Dans cette toile, Kasa nous transporte dans un théâtre parisien, un lieu emblématique de divertissement et de sociabilité à l'époque. Plutôt que de se concentrer sur les acteurs sur scène, Kasa choisit de mettre en lumière les spectateurs dans la loge, offrant ainsi une perspective unique sur l'expérience théâtrale. Alors au premier plan, nous voyons une femme élégamment vêtue de noir, concentrée et captivée par ce qui se déroule sur scène. Elle observe attentivement la représentation à travers ses lunettes d'opéra, absorbée par l'action qui se déroule devant elle. À ses côtés, un homme, légèrement en retrait, semble également intéressé par la scène, mais son regard est détourné, peut-être perdu dans ses propres pensées. Kasa capture encore une fois avec finesse les nuances des expressions et des gestes de ses personnages, révélant ainsi les subtilités des relations humaines dans un contexte social et culturel spécifique. La loge est bien plus qu'une simple scène de théâtre, c'est une exploration de l'observation, de l'interaction et de la contemplation dans le cadre vibrant de la vie parisienne. Enfin, Petite fille dans un fauteuil bleu, réalisée en 1878, une huile sur toile de dimension imposante de 89,5 sur 129,8 cm. Elle offre une plongée saisissante dans l'univers intime de l'enfance à la fin du 19e siècle. Au cœur de la composition, une jeune fille est installée dans un fauteuil de couleur bleue, dont la taille semble disproportionnée par rapport à sa propre stature. Elle est accompagnée d'un petit chien, endormi paisiblement sur le fauteuil voisin. La scène dégage une atmosphère de quiétude et d'intimité où le temps semble totalement suspendu. L'histoire de ce tableau est marquée par une série d'événements significatifs. Initialement, Marie Cassat a soumis l'œuvre à la galerie d'art du pavillon américain de l'Exposition universelle de 1878 à Paris. Cependant, elle a été déçue lorsque le tableau a été rejeté, ce qui a suscité sa frustration et son mécontentement. Dans une lettre datant de 1903, adressée au marchand d'art Ambroise Vollard, Cassat exprime son irritation face au rejet de l'œuvre par le jury de l'exposition. La peinture, souvent citée comme un exemple de l'influence de son ami et mentor Edgar Degas sur l'œuvre de Cassat, a également été le fruit d'une collaboration étroite entre les deux artistes. Degas a contribué à travailler sur l'arrière-plan du tableau, illustrant ainsi la synergie artistique entre les deux maîtres. Dans Petite fille dans un fauteuil bleu, Cassat parvient donc à saisir l'essence même de l'enfance à travers les détails minutieux des vêtements de la petite fille, la texture du fauteuil et la douce lumière qui baigne la scène. L'enfant semble être absorbé dans son propre monde intérieur, indifférente au regard extérieur et aux conventions sociales de son époque. Comme nous pouvons le constater à travers ses œuvres évoquées, Cassat démontre sa remarquable capacité à traduire avec finesse et émotion les instants simples de la vie quotidienne. Son impact réside également dans sa capacité à capturer à la fois la complexité et la simplicité de la vie de tous les jours, ainsi que dans sa représentation poignante de l'enfance à travers les époques, tout en nous invitant à réfléchir sur la nature de la perception et de la connexion humaine. Chaque toile de Cassat devient un témoignage précieux de son génie artistique et de son époque. Il est indéniable que Marie Cassat a joué un rôle essentiel dans la redéfinition des normes esthétiques et sociales de son époque, en offrant une représentation plus nuancée et complexe de la féminité et de la maternité. À une période où les femmes étaient souvent confinées à des rôles traditionnels de mère et d'épouse, Cassat a su donner voix à travers ses œuvres à la diversité des expériences féminines. Ses portraits intimes de femmes et d'enfants capturent avec une sensibilité et une délicatesse remarquables l'essence même de la vie domestique, offrant ainsi une perspective authentique sur la réalité des femmes de son époque. Un exemple notable de son engagement envers le féminisme est la commande qu'elle a reçue pour réaliser une peinture monumentale intitulée « La femme moderne » pour le hall d'honneur du pavillon de la femme lors de l'exposition universelle de Chicago en 1893. Cette œuvre témoigne de son désir de célébrer la femme moderne dans toute sa diversité et sa complexité, mettant en lumière les multiples facettes de la condition féminine à une époque de bouleversements sociaux et culturels. Ainsi, Marie Cassat a non seulement révolutionné le monde de l'art par sa vision novatrice et son talent artistique, mais elle a également contribué à l'avancement du féminisme en offrant des représentations authentiques et puissantes de la vie des femmes, ouvrant ainsi la voie à une reconnaissance plus large et une valorisation des contributions des femmes dans la société. Denise Brahimi, dans La peinture au féminin, aux éditions Jean-Paul Rocher, écrit « Marie, en revanche, ne s'est jamais mariée, et l'on n'a là-dessus aucune explication, sinon que tel n'a pas été son choix. Un choix qui peut paraître d'autant plus énigmatique qu'elle a en revanche consacré beaucoup de son temps et de ses soins à la famille Cassa, ses parents, sa sœur Lydia, ses frères Alexandre et Gardner, et leurs enfants. Entre sa famille et son art, Marie a pu juger qu'elle ne disposait pour elle-même d'aucun temps. Marie Cassa dira un jour « Une femme artiste doit être capable de faire des sacrifices primaires. » La fin de la vie de Marie Cassa est marquée par des défis de santé croissants. À partir de 1910, elle est confrontée à des problèmes de santé graves qui finissent par compromettre sa pratique artistique. Ces difficultés la conduisent à mettre fin à sa carrière créative et en 1921, elle devient définitivement aveugle. Malgré ces épreuves, Cassa continue de vivre avec une détermination sans faille. En 1892, elle acquiert le château de Beaufin dans l'Oise, où elle trouve un refuge paisible, loin de l'agitation de la vie citadine. C'est là qu'elle passe ses dernières années, entourée de ses souvenirs, de son illustre carrière et de son héritage artistique. Malgré la perte de sa vue, Cassa reste une figure inspirante pour les générations futures. Son influence sur le monde de l'art et son engagement envers la représentation de la vie quotidienne et de la féminité continuant à être célébré. Marie Cassa s'éteint paisiblement au château de Beaufresne en 1926, ayant survécu à la Première Guerre mondiale qu'elle a passée à Grasse. Son héritage perdure, ses œuvres demeurent des témoignages intemporels de son talent et de sa vision unique du monde. Et bien, c'est ainsi que l'épisode sur Marie Cassa, portrait d'une vie artistique, se termine. Un grand merci pour votre écoute. Comme toujours, si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Ça m'aide beaucoup, en plus de me faire plaisir. Je vous propose de me rejoindre sur le compte Instagram Art au Féminin pour plus de contenu. Et n'oubliez pas, Art au Féminin a aussi son site internet. Vous pouvez y retrouver les différents podcasts, des articles, des citations et des recommandations de livres. D'ailleurs, le dernier article sur le site est sur une loge aux Italiens, l'une des œuvres d'Eva Gonzalez. Belle journée, belle soirée, à vous.